Bonjour, bienvenue dans Estivalitude, pour instiller l'estivalitude, c'était pas mal, c'était difficile à dire ça, pour instiller l'estivalitude, il faut un studio, des micros, des lumières de pizzeria et surtout une équipe, or tout le monde est là, présent sur les starting blocks comme tous les matins, un peu comme on fait décoller un avion, une montgolfière ou un cerf-volant en somme. Estivalitude, c'est la petite boutique éphémère qui ouvre chaque jour sur France Inter de 9h à 10h pendant l'été. Et avec ceci,
c'est ouvert à tout le monde.
Tout le monde.
Tout le monde.
Ouais, tout le monde y sera.
Formidable.
Laurence Nobécourt, vous vous êtes imposée au fil des livres comme une romancière puissante et inclassable. Avec votre dernier livre, Le chagrin des origines, qui est un récit, vous autopsiez votre propre famille. Bonjour Laurence Nobécourt.
Bonjour Christophe Bourcier.
Cédric Kahn, vous êtes cinéaste, un cinéaste reconnu, et dans Fête de famille, vous faites littéralement sa fête à la famille. Bonjour Cédric Kahn.
Bonjour.
Vous m'avez compris, ce matin, mes invités s'écrient en quelque sorte « Famille, je vous hais, Magnéto Juliette ».
Estivalitude.
Ça veut dire quoi ?
Ça veut rien dire.
Christophe Bourseiller, sur France Inter.
Cédric Kahn, vous avez déjà lu Laurence Nobécourt ?
Et non, je suis vraiment désolé.
Ah, vous savez pas ce que vous perdez, hein, vraiment.
J'imagine.
Vous n'avez pas lu La démangeaison, Substance, En nous la vie des morts, Grâce leur soit rendue, Lorette ?
Non, mais vous savez pas. Déjà, c'est évocateur.
Ah bah, bien sûr. Vous savez qu'elle s'est fait connaître initialement sous le nom de Laurette Nobécourt, d'après le sobriquet qu'on lui attribuait dans sa famille, justement. Donc, il y a effectivement ce point commun de la famille. Et vous, Laurence Nobécourt, je crois que vous connaissez un peu le cinéma de Cédric Kahn.
J'ai vu deux films, oui. La prière et Vie sauvage.
Ça vous a plu?
Oui, heureusement, parce que comme je ne sais pas
faire
semblant.
Soyez franche.
Bah oui, je me suis dit, ah, j'espère que je vais aimer. Et oui, ça m'a tout à fait intéressé.
Alors, il y en a beaucoup d'autres. Il a fait beaucoup de films. Bardera, L'ennui, Roberto Succo, Les regrets, c'est une œuvre très prolixe et très diverse. Mais alors là, votre point commun ce matin à tous les deux, Laurence Nobécourt et Cédric Kahn, c'est le regard que vous portez l'un et l'autre sur la famille. Parce qu'il faut bien dire, Laurence Nobécourt, que votre livre pour lequel vous venez nous voir, Le chagrin des origines, c'est un récit autobiographique. Tout est vrai ?
Oui, c'est un récit autobiographique qui est, en fait, j'avais vraiment envie de faire l'autobiographie de mon lien à l'écriture. Et je crois qu'il est extrêmement lié à la famille. C'est un peu en l'écrivant que je m'en suis rendu compte. Je n'étais pas partie pour écrire encore sur la famille, si je puis dire.
Bah vous parlez longuement de vos parents, enfin vous parlez notamment très longuement de votre mère. Mmh. Alors vous révélez qu'elle a voulu vous avorter.
Oui, en fait, c'est une information que j'ai eue tard. J'avais déjà... une fille. Et donc, ça m'a beaucoup, à l'époque, secoué, évidemment. Mais j'aurais dit à l'époque que ça m'avait... voilà, c'était un événement majeur, etc. Puis après, au fil du temps, finalement, le regard qu'on a sur sa propre vie change. Et aujourd'hui, voilà, c'est quelque chose qui est constitutif, mais qui est plus du tout...
Le sentiment de n'avoir pas été désiré, en tout cas.
Oui, c'est quelque chose, ça veut dire avancer dans la vie sans un sol, finalement, qu'on fabrique soi-même. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très tranquille pour moi, enfin, qui n'est plus du tout une source de souffrance, de déchirement, je me suis apaisé avec ça. Mais je crois que c'est
Cédric Kahn, tous les enfants ne sont pas désirés.
Non, ce qui m'impressionne toujours, c'est comment l'information vous arrive.
Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que suite à un avortement, moi j'avais décidé de faire un livre sur l'avortement en allant interviewer des hommes et des femmes qui avaient vécu cette expérience, parce que j'avais trouvé que c'était une expérience très violente. Et j'avais été voir ma mère qui m'avait dit non, pas du tout. Elle ne m'en avait rien dit. Et c'est des années plus tard, un jour où elle était complètement ivre, en fait. Elle m'a dit cette chose-là. On a bu ensemble.
Ah oui, il faut au moins
être ivre. Et voilà. Et elle n'était pas du tout alcoolique, hein, mais ce jour-là, elle a bu et elle m'a sorti le morceau.
Vous dites dans votre livre, en parlant de votre mère, vous dites « Notre lien était devenu vrai, mais la vérité de notre lien était froide, dure et froide ». C'est terrible, ça.
Oui, oui, peut-être que c'est terrible, mais en même temps, je crois que... En tout cas, moi, je trouve ça totalement merveilleux d'arriver à une relation vraie avec sa mère et arriver, si cela se peut, à une relation d'individu à individu. Et je pense que nous étions arrivés à cela.
Une relation assez forte, parce que vous dites aussi, nous étions liés, elle et moi, par une adoration et une haine réciproque.
Oui, je pense que... Bah, bon, la mère, hein, c'est un dossier pour tout le monde, hein, je pense.
C'est pas faux.
Donc, c'est... voilà. Mais c'était un lien intense. Elle est morte il y a bientôt un an. Et... Je sais pas comment dire ça... Même s'il a été dur, même si, oui, je crois qu'il y a eu de la haine, parce qu'il y a eu beaucoup d'inconscient, de choses qu'elle-même je crois qu'elle ne comprenait pas beaucoup de choses de ce qu'il a traversé. Elle était saisie par des choses comme ça. Mais c'est pas grave, parce que, au bout du compte, notre lien a été vivant. Et il a été vrai. Et à la fin, il y a quelque chose presque comme une douceur qui a pu avoir lieu, même si je n'ai pas du tout, le fantasme de à la fin l'autre meurt et tout devient génial et merveilleux, non pas du tout, mais au moins je sais pas, il y a eu, c'est correct, je sais pas comment vous dire ça,
il y a quelque chose de correct qui s'est mis en place, c'est oui, ce que vous exprimez oui. dans votre livre Le chagrin des origines, et vous évoquez aussi la violence de votre père. Alors votre père, alors c'est toujours étrange de dire ça, qui est d'extrême droite, ça veut dire quoi le père d'extrême droite?
Alors oui, c'est étrange, ben oui, je sais pas si c'est étrange,
c'est
un père d'extrême
drôle.
Droite c'est quand même c'est quelqu'un qui trouvait que Le Pen était un mou, donc
ah oui, il trouvait Le Pen trop mou,
voilà.
D'accord,
donc,
oui, je comprends.
Non, c'est mais alors ça aussi, c'est tout ça en fait, et ce qui m'a permis d'arriver à regarder tout ça, c'est l'écriture, hein, évidemment. Ouais, sans sinon j'aurais été avalée par tout ça. Mais oui, mon père avait des convictions profondes. Il était assez cohérent.
Vous dites, il avait des sorties de langage.
Ah oui. Oui, il, en public, comme ça, il aimait énormément provoquer.
Scandaliser.
Oui, il adorait ça. Moi, ça me mettait dans des états de honte pas possible. Mais finalement, il était assez cohérent et j'aime bien ça, la cohérence, malgré tout. Et mais il avait une sorte de tendresse. C'est complexe, hein, les gens d'extrême droite.
Vous avez même cru à un moment donné qu'il avait été Waffen-SS pendant la guerre, mais c'était une calomnie.
Oui, alors ça, c'est quelqu'un qui m'a dit ça un jour, parce que j'ai été très préoccupée par le dossier père avant de m'occuper du dossier mère. Enfin, mais finalement, ça ne s'est pas avéré exact. Et donc, c'est toutes les... Comment, voilà, cette personne-là est venue à me dire tout ça? Bon, voilà, c'est la folie humaine ordinaire, quoi, qui circule à bas bruit dans les familles.
Et tout ça se déroule dans un milieu, c'est ce que j'ai découvert en lisant Le Chagrin des Origines, dans un milieu bourgeois.
Oui.
Et même fortuné, dans un immense appartement dans le 17e arrondissement de Paris.
Oui, absolument. Bourgeois et qui a doucement chuté, voilà, parce que mon père a progressivement tout perdu, ce qu'il avait bâti. Mais dans les milieux comme il faut, vous savez, on ne manque de rien, sauf qu'il manque l'essentiel, qui est l'amour.
Avec une famille très catholique, puisque vous dites, j'ai participé à 800 messes avant 18 ans. Vous les avez comptées?
J'ai essayé de faire le calcul, oui. On était chez les religieuses, donc effectivement, il y avait messes et mon père avait la foi, était pratiquant. Et donc, nous disait d'aller à la messe avec lui.
Et très jeune, vous ruez dans les brancards, parce que par exemple, vous devenez ami avec une prostituée qui tapine en bas de chez vous.
Oui, alors je crois que je cherchais la vérité, je cherchais le sens, et je suis devenue amie avec Eva, qui a beaucoup compté pour moi, oui. Et j'allais la voir le soir, je redescendais, j'étais adolescente, je ne sais plus tellement quel âge j'avais, mais elle m'a beaucoup appris sur la vérité des relations, du cœur, au sens vraiment beau du terme, quoi.
Devenir ami avec une prostituée très jeune, c'est bizarre. Donc
vous
vouliez vous prostituer, c'était quoi pourquoi aller à ses côtés dans la rue attendre le client?
Alors non,
que vous le faisiez, je crois.
Non, on était dans sa voiture.
Ah bah elle tapinait depuis sa voiture.
Voilà,
c'est ça.
C'était assez formidable. On n'attendait pas le client. En fait, elle attendait le client et puis on bavardait.
Mais parfois le client vous sollicitait vous.
Et oui, parfois le client me sollicitait. Mais je crois que tout ça témoigne du désordre psychique qui régnait au sein de ma famille, où tout avait l'air parfaitement normal, entre guillemets, mais la normalité, je n'y crois pas. Et puis voilà, quand on commence à aller par là, c'est qu'on cherche quelque chose, c'est que oui, ça, je dirais, ça déconne grave dans la famille. d'où je venais, quoi.
Et cette forme de déconnade, moi, m'a fait terriblement penser aux livres de Julien Green, qui sont, comme ce que vous racontez de votre famille, on pense vraiment à cette œuvre de Julien Green, qui est, elle aussi, située dans un milieu très bourgeois.
Et que je n'ai pas lu.
Vous n'avez pas lu Julien Green?
Non, mais alors vous écoutez, me donnez envie.
Je crois qu'il faut voir les films de Cédric Kahn, lire Julien Green. Cédric Kahn, il faut lire Laurence Tobécourt. Alors moi, pour vous essayer de vous unir, j'ai trouvé un disque qui vous concerne tous les deux, Laurence Tobécourt et Cédric Kahn. C'est Claire Diterzy qui observe à la loupe un repas familial et dominical.
Politiquement correct, y a les petits pas dans les... midi. Émotionnellement correct, on parle là, puis du beau temps. La télé est allumée, faut s'y résigner. Rire, pas de famille, ça nous saoule, on n'en peut plus. De se taper la quiche, qui cocotte et qui pleurniche.
C'est repas de famille, ça nous gave, on n'en peut plus. Enfin, c'est le texte de Claire Diterzy. Repas de famille, donc c'était Claire Diterzy.
Estivalitude sur France Inter.
Cédric Kahn, vous aussi, la famille, ça vous travaille, et même ça vous travaille fortement, si j'en juge par votre dernier film.
Ouais, je pense que ça travaille tout le monde, non ?
Ouais. Oui. Enfin, vous, c'est un petit peu un cas particulier parce que vous êtes pervers. Parce que votre film « Fête de famille » démarre de façon parfaitement idyllique. C'est une famille exemplaire, enfin, c'est dans une maison magnifique, qui se rassemble autour de la grand-mère, Andrea, jouée par Catherine Deneuve. On répète un petit spectacle qu'on va d'ailleurs donner pendant le film, tout à fait charmant. On fait des gâteaux, on cuisine, on décore, tout est joli, sympathique. Et vous dites... Je voulais raconter une famille un peu dingue, mais aussi très joyeuse, où chacun peut exprimer sa fantaisie, sa créativité. Et moi, je la trouve plutôt cauchemardesque, votre famille.
Ah oui. En tout cas, oui, le film a un petit effet de trompe-l'œil, c'est-à-dire que, mais je pense que c'est un peu la famille que je voulais raconter, où on veut sauvegarder les apparences à tout prix. On veut dire que tout va bien, on veut être joyeux, on veut, et puis voilà, on met les problèmes sous le tapis, et à un moment, la vérité explose.
Ah, bah, le paradis vire très vite à l'enfer dans votre histoire, hein.
Très vite, non, mais il y a quelque chose qui monte en cours de film, et effectivement, qui va être un peu, qui va révéler les gens à eux-mêmes. Mais moi, je pense que, qu'on écrive ou qu'on fasse des films, il faut arriver à l'instant de vérité.
Alors, on va écouter la bande-annonce de Fête de Famille.
Allô ?
Maman, c'est moi, c'est Claire.
Tu restes où tu es, on vient te chercher, on vient tout de suite. Hein.
J'ai pas de cadeau pour maman.
On s'en fout, le cadeau, c'est toi.
Tu m'as tellement manqué.
Elle disparaît pendant 3 ans et quand elle revient, on doit se plier à ses 4 volontés.
C'est pour ça que t'es revenu, pour récupérer ta thune.
Oui, absolument.
C'est indiscutable, on a de l'argent à Claire. Pour le montant, ben, on verra.
Mais non, y a pas à discuter du montant.
Aujourd'hui, c'est mon anniversaire, donc j'aimerais qu'on ne parle que de choses joyeuses.
C'est l'angoisse. Cette maison, cet anniversaire, cette famille.
Vous êtes ma famille, ma seule famille, et je vous aime.
Alors le personnage pivot de Fête de Famille, c'est Claire, personnage de Claire, qui est magistralement, faut dire, incarné par Emmanuel Berco. C'est quoi l'histoire de Claire, Cédric Kahn?
Son histoire personnelle.
Dans le film. L'histoire d'Emmanuel Berco m'intéresse aussi, mais c'est un autre sujet.
C'est la revenante, quoi. C'est-à-dire qu'elle a disparu depuis 3 ans. Tout, finalement, la vie s'est organisée.
Elle était en Amérique.
Elle était à San Francisco avec un amant, voilà. Et puis, elle a laissé sa fille là, dans la maison, élevée par ses grands-parents. Et la vie s'est très bien organisée sans elle, en fait. C'est l'absente. Et quand elle arrive, en fait, c'est à la fois, la joie et la frayeur, parce que voilà, les choses établies vont...
C'est la frayeur parce qu'il y a un secret de famille qui est que quand elle était enfant, on lui a quand même, on l'a spoliée.
Oui, on l'a spoliée à l'âge de jeune adulte, en fait. Hein.
C'est enfin, on l'a spoliée. Donc, si vous voulez, ce qui est gênant, c'est que vous vous mettez autour d'une table avec des gens autour de vous qui vous ont spolié. C'est ça l'histoire de Claire, en réalité.
Oui, mais en fait, vraiment, ce que je voulais dans le film, c'est que les choses, et c'est comme ça dans les familles, les choses sont toujours à double entrée. C'est-à-dire qu'elle dit qu'on l'a spolié, mais la famille, les parents pensent qu'ils l'ont protégée. C'est-à-dire qu'ils ont mis son argent à l'abri parce que voilà, elle a un problème psychologique qui fait que l'argent est mieux
qu'ailleurs. Alors, le problème psychologique qu'elle a, c'est un doute qu'on a pendant toute une partie du film, c'est est-ce que ce personnage de Claire est folle? Et être mal aimé, ça peut rendre folle, Laurence Nobécourt?
Ah, je crois, oui.
Ouais.
Je crois que le fou, ça n'est pas... Enfin, moi, j'ai beaucoup de mal avec cette notion de normalité et de folie.
C'est ce que vous dites. Vous dites, j'en ai ras-le-bol des normopathes.
Ouais.
Ah, on est d'accord,
oui,
hein, je suis d'accord avec vous.
Je crois que ce serait simple si c'était comme ça, mais non, ça ne se passe pas comme ça. Et je crois que le manque d'amour est ce qui rend le plus fou. Oui.
Et moi, j'ai construit tout le scénario. En fait, il y a un mouvement de bascule, c'est que le groupe, la famille dit qu'elle est folle, mais elle dit que c'est la famille qui est folle,
oui,
en fait. Et c'est un va-et-vient permanent. C'était mon idée, c'est que le spectateur bascule tout le temps de l'un à l'autre, en fait, à se dire, mais peut-être c'est elle qui a raison, et c'est vraiment le groupe qui est pathogène.
Il y a quand même une scène hallucinante, pendant laquelle Claire craque. Et alors, c'est joué, mais de façon si juste que j'ai pensé qu'Emmanuel Berco devenait folle, enfin, qu'elle craquait vraiment. C'était une scène très, très, très forte où elle est autour de la table familiale, et là, on se dit, elle est vraiment folle. Ça a été dur à tourner, cette scène?
Ça, c'est ce qu'on attend du cinéma, c'est que l'illusion soit parfaite, quoi. Donc voilà, un moment entre le travail du scénario, de la caméra et de l'acteur, on doit inviter le spectateur à la table.
Mais quand on sort de votre film, Cédric Kahn, on se dit, c'est un huis clos familial démoniaque. Enfin, en tout cas, ce que je me suis dit, moi, hein.
Non, mais je pense qu'il y a quelque chose d'un peu démoniaque dans les familles, c'est-à-dire que c'est le lieu de tout pour moi, la famille. Moi, j'ai rien de catégorique à dire sur la famille, c'est-à-dire que c'est le lieu de l'amour et de la haine, c'est le lieu de la vérité et du mensonge, et tout ça cohabite parfaitement, et finalement, les familles avancent, survivent de tout ça, en fait. C'est-à-dire que je crois qu'à un moment, même le père donne un peu, pour moi, la leçon du film. Il dit, mais le mensonge nous permet de garder la tête hors de l'eau et de continuer à fêter les anniversaires, à nous regrouper, à voler quelques moments joyeux à la vie. Mais surtout, C'est vrai qu'il y a quelque chose d'un peu excessif dans le film, mais pour moi, c'était aussi l'idée de traiter ce sujet par la comédie. Je voulais absolument que ça soit tellement énorme qu'on puisse en rire.
Ah bah, il y a un personnage extraordinaire aussi, je dois dire, c'est Vincent Macaigne, qui joue quelqu'un qui est très inquiétant sous des dehors bonhomme.
Oui, on peut tout à fait à la fin du film de se dire c'est lui le vrai fou, c'est lui le vrai pervers.
Quand on voit la fin du film, je sais pas s'il faut spoiler comme on dit aujourd'hui ou divulgâcher.
Non, il faut divulgâcher
la fin du film, mais c'est vrai que là on se dit que ce type est quand même
Oui, et moi par exemple, mon personnage dans le film qui est le frère aîné, qui fait tout bien, qui est le fils parfait et qui est vraiment le normopathe et il a une forme de folie aussi, c'est-à-dire qu'il veut tellement incarner l'ordre et la loi dans cette famille que finalement il a un côté tragique parce que le groupe l'exclut aussi d'une autre manière.
Laurence Nomécourt, vous évoquez, vous aussi, dans votre livre des moments difficiles, vous parlez du fait que votre bipolarité, vous parlez aussi, vous dites à un moment, vous dites que vous êtes plongé à un moment donné dans une nuit sexuelle.
Oui.
Qu'est-ce que c'est une nuit sexuelle? Pardon, j'espère que les enfants ne vous écoutent pas trop.
C'est difficile à... Comment dire? J'ai utilisé cette expression pour essayer de condenser quelque chose qui est difficile à exprimer, mais je pense que c'est avoir été cherché par la sexualité profondément quelque chose qui était de l'ordre de la lumière, parce que c'était ce que je cherchais, et de ne rencontrer que la nuit. Voilà, je dirais ça. Mais en même temps, on apprend beaucoup, parce que je dis ça aussi à un moment donné que... Le corps enseigne une connaissance qu'aucun livre ne possède, et je le crois, oui. Voilà. Mais non, je ne saurais pas vous en dire plus.
Et quand vous parlez, quand vous évoquez cette notion de bipolarité, qu'est-ce que vous voulez dire? C'est vous voulez dire que vous souffrez comme Virginia Woolf d'une alternance de moments dépressifs et de moments de joie intense?
Oui, j'ai été saisie de ce que le psychiatre que j'ai rencontré à l'époque, qui m'a enfin nommé cette chose-là, mais tard, hein, a nommé mélancolie en me disant voilà, c'est le nom, c'est le mot qu'on utilise, utilisait autrefois, et ce qu'on utilise pour les bipolaires aujourd'hui. Je pense que moi, ça m'a beaucoup aidé. Et en fait, ça a été un homme absolument fantastique, ce psychiatre, parce qu'il a compris que j'avais, par l'écriture, et c'est vraiment tout ce à quoi le livre veut rendre hommage, d'ailleurs, la puissance comme ça du verbe, il a compris que j'avais trouvé un équilibre, et il m'a dit, ne prenez pas de médicaments si vous pouvez continuer comme ça. Et je m'en suis sortie comme ça, parce que je m'en suis sortie, quoi.
Tame Impala, c'est le nom du groupe et donc le titre de la chanson Borderline. Je précise, parce que vous ne savez peut-être pas, Cédric et Laurence, que le groupe Tame Impala a été fondé en 2007 en Australie, à Perth.
Mais non, nous ne le savons pas.
C'est des choses qu'il faut savoir.
Christophe Bourseiller, Estivalitude, sur France Inter.
Mes invités ce matin sont Laurence Nobécourt et Cédric Kahn. Alors, Laurence Nobécourt, je vous ai demandé si vous aviez une question à poser à Cédric Kahn. Alors, quelle est cette question ?
J'ai peur.
Eh bien, quel est le nom ou le mot de votre quête ?
Vaste question.
Très vaste question.
Vaste
J'ai temps de réfléchir et de revenir. le mot de ma quête, l'humain, comprendre les gens. Et même encore aujourd'hui, quand on me raconte des histoires, quand j'observe la vie des gens, je trouve les gens quand même très mystérieux, très étonnants.
Et vous, Laurent, c'est quoi le mot, le nom de votre quête ?
Le nom de ma quête ?
Ouais.
Mais là, ce n'est pas du tout censé être la question qu'on me posait.
Je rebondis et ça m'intéresse.
Oui, je dirais que...
C'est l'effet boomerang.
J'aurais, au départ, il y a très longtemps, je vous aurais dit l'absolu, tranquille.
Tranquille.
Et aujourd'hui, je comprends que l'absolu s'attrape par le détail. Et donc, ce serait plutôt, en effet, d'être là, au présent, et d'être dans cette joie possible, d'être vivante. Vivante.
Cédric Kahn, vous avez une question pour Laurence Nobécourt.
Oui, alors elle est un peu absurde. Hein. Je compte sur vous pour rendre la réponse plus intelligente que la question. Est-ce que vous créez pour exister ou est-ce que vous existez pour créer ?
Dites donc, c'est l'oral du bac, là, ce matin. Là. C'est la philo, là.
Philo, mais je n'avais pas une très bonne note, je crois. C'est vital, en fait. C'est une histoire de sens. Moi, j'ai besoin qu'il y ait du sens à la vie et qu'il y ait une quête. Et donc, la question, c'est... Ah, je ne sais pas comment dire ça. J'allais dire, c'est les deux sont tellement imbriqués et tressés ensemble qu'il n'y a pas l'un ou l'autre. C'est et. Et non pas où, ou voilà.
La quête, c'est au cœur de votre démarche, Laurence Nobécourt. Pour moi, ce qui vous distingue depuis le départ, c'est une indéniable quête spirituelle.
C'est vrai, je vous remercie de le noter.
Mais je voulais même aller plus loin. Oui. Je sais que vous en parlez dans votre livre de diverses influences. Il y a une influence qui, moi, je ne peux pas m'empêcher de vous relier à elle. C'est une femme aujourd'hui décédée qui a écrit des livres magnifiques comme Le désert intérieur et qui se nomme Marie-Madeleine Davy. Oui. Et j'aimerais bien qu'on entende juste quelques instants sa voix.
Ah, chouette.
Il y a quelque chose au-dedans de moi-même. Il y a ce que nous nommons l'intériorité. Et si je comprends que le royaume que je cherche, la perle d'un grand prix que je quémande, que je mendie, si je comprends qu'elle est au-dedans de moi, je vais aller vers mon intériorité, non pas comme une montée, non pas comme une descente, mais comme je pourrais découvrir un ami, quelqu'un qui m'est très cher, je sais qu'il est là. Mais est-ce que je peux communiquer avec lui ?
C'est magnifique.
Oh, hein,
elle est décédée aujourd'hui, Marie-Madeleine Davy, mais elle a écrit
des
livres.
Elle est bien vivante.
Absolument. Vous connaissiez Marie-Madeleine Davy, Cédric Kahn, vous devriez lire ses livres.
C'est
lisez Laurence Nobécourt et lisez Marie-Madeleine Davy. Alors, dans votre livre, vous racontez des expériences tout à fait étonnantes. Laurence, vous racontez que vous avez essayé des champignons hallucinogènes.
Oui, mais exactement comme ce qu'elle exprime là
c'est ça,
dans
vous
l'extrait
cherchez,
que
c'était une quête.
Ah, j'aime beaucoup cet extrait. c'est toute l'intériorité, c'est tout ce pourquoi j'ai écrit depuis toujours. C'était une quête spirituelle qui était un peu en écho à Carlos Castaneda, que j'avais lu à l'époque, mais je sais pas, j'avais déjà bien adulte et mère de famille. Donc voilà, j'ai pris des champignons et ça a été une expérience extraordinaire de... En fait, tout s'est remis à l'endroit, voilà. C'est-à-dire que tout ce que j'avais pressenti dans mon enfance, c'est que le réel et le monde et la normopathie avaient tenté de rectifier. J'ai compris que c'était le monde qui était très malade et que finalement, cette intériorité en moi ne demandait qu'à vivre Non, ça a été merveilleux comme expérience.
Il y a un point commun tout à fait surprenant entre vous, Laurence, et Cédric Kahn, c'est la Drôme.
Ah oui.
Il faut savoir, Cédric Kahn, que vous avez grandi dans une communauté hippie dans la Drôme. Alors vous avez dit, je vous cite, « On est parti, mes parents, ma sœur et moi, vivre en communauté dans une bâtisse abandonnée dans la Drôme ». Vous aviez 7 ans, c'est ça ?
Ouais, exact.
Ouais. Et alors c'était bien.
Et j'en suis parti à 18 ans, donc je crois qu'on a fait le trajet inverse.
On comprend mieux alors certains extraits de Vie sauvage où j'ai trouvé ça très intéressant justement, où il y avait un regard là-dessus qui n'est pas comment dire binaire, voilà, qui parle de la complexité.
Oui, moi
de
j'étais pas du tout touriste. Oui. Enfin après l'histoire de Vie sauvage est très particulière parce
qu'on
est sur un fait divers et tout ça, mais par rapport à ce monde-là, comme ça, un peu d'alter, enfin de gens un peu à la marge, mais vivant à la campagne, c'est un monde que je connais bien.
Mais Laurence Tobécourt, la Drôme, vous la connaissez bien. Je crois savoir que vous habitez Dieulefit, c'est
oui,
ça ?
Oui, j'habite Dieulefit, j'y vis depuis 12 ans et j'étais parisienne, ayant vécu à Paris jusqu'à l'âge de 39 ans et je suis partie, donc j'ai fait effectivement le trajet inverse.
Quand arrivait, l'autre partait, quoi.
Oui, quelques années près.
Et vous savez que Cédric Kahn sait traire les brebis. Là, je suis très admiratif.
Ah oui. Non, les chèvres.
Ah, c'est les chèvres ?
Ah bah oui.
Ah, enfin même.
Faut être précis.
Oui, bien sûr, vous êtes... Ah, vous savez traire les
D'ailleurs,
chèvres.
C'est pas facile de traire une brebis.
J'en sais rien.
En bon communautard 68ard, on avait les chèvres. Et donc, avant de partir à l'école, on traillait les chèvres.
Bah, c'est incroyable. Alors, Laurence Nobécourt, elle a aussi une particularité. Ça, j'avoue, c'est
assez
fascinant.
Chèvres, non.
Non, vous ne savez pas traire les chèvres ni les brebis, mais vous avez visité la Patagonie.
Ah oui, ça va. En effet.
Pourquoi ?
Pourquoi ? Ben toujours dans cette quête, je crois, spirituelle. C'est une autre façon. J'ai voulu rencontrer les éléments, la solitude, moi-même, si je puis dire.
À l'autre bout du monde.
À l'autre bout du monde.
À l'autre bout de la
planète. L'Himalaya, la Patagonie, ce sont des endroits qui m'ont attiré parce qu'ils ont un caractère assez absolu.
Et ça a donné un livre, très beau livre d'ailleurs, qui s'appelait Patagonie intérieure. Je vous le dis, Cédric Kahn. Alors, je vous ai demandé à l'un et à l'autre le son qui vous résumait. Alors, Laurence, le son qui vous résume, j'avoue qu'on on l'a trouvé. Hein,
finalement.
Mais on a eu du mal à le trouver. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est le film Pandora and the Flying Dutchman d'Albert Levim en 1931. Mais quoi précisément ?
51, je crois.
Ah bon ?
Oui. Alors, quoi ? Vous voulez dire quel passage ?
Oui, le passage que vous avez choisi.
Alors, c'est le moment où... C'est avec Ava Gardner, c'est un film absolument merveilleux. Où elle part, en fait, elle se met nue, Ava Gardner rentre dans l'eau et va rejoindre le yacht où il y a le Flying Dutchman. Et elle arrive nue, elle prend une bâche sur le bateau de sauvetage, là. Elle s'enroule dedans et elle dit « Hello there, is there nobody there ?»
Et on l'écoute.
Vous l'avez trouvé.
Hello. Sailor on watch. Where are you? Is there nobody there?
Alors évidemment c'est en anglais, mais c'est toute cette ambiance hollywoodienne. Juste en un mot, pourquoi ?
Ah, j'adore.
Pourquoi ?
Parce que c'est vraiment toute la question de l'autre, c'est-à-dire qu'elle est nue. Elle est seule et elle cherche l'autre, quoi. Et elle dit, est-ce qu'il y a quelqu'un ? Est-ce qu'il y aura enfin quelqu'un ? Et c'est et elle va vers cet amour qui est au-delà de l'amour, si je puis dire, au-delà du temps et de la mort. Et oui, c'est vraiment l'appel de l'autre. Et du grand autre.
Du grand, voilà. De l'autre avec un grand A.
Et du petit, du grand, enfin le grand dans le petit, etc.
Cédric Kahn, le son qui vous résume, on l'écoute, c'est ça.
Les deux sont sautés avec un
départ. Alors c'était quand même une demande assez particulière, hein. C'était le silence dans le stade avant le coup de feu de départ du 100 mètres.
Ouais, d'ailleurs, elle est pas très silencieuse.
C'est que Juliette Medeville a eu beaucoup de mal à le trouver. Bon, on voulait un silence habité, c'est de la radio.
Ouais, justement, c'était un peu ça la blague, mais je cherchais quelque chose autour du silence, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de bruit. Enfin, qu'on a, je sais pas, il y a une espèce d'obsession.
Mais là, c'est un silence tendu. C'est pas le silence intérieur, c'est pas le calme dont parlait Marie-Madeleine Davy. Là, c'est un silence.
Oui, je trouve très impressionnant quand on est dans un stade, quand la foule fait silence, parce que ça fait effectivement, il y a un son, quoi. Il y a vraiment, on sent la présence des gens comme ça. Mais en général, c'est beaucoup plus silencieux que ce que vous avez trouvé. Ou quand il y a une minute d'hommage ou tout ça, je trouve le silence de la foule très impressionnante. Et puis voilà, ouais, je voulais rendre hommage à l'athlétisme que j'adore et surtout, voilà, c'est une façon de parler du silence, parce que je trouve qu'on est dans l'obsession du plein, qu'il n'y a jamais de silence nulle part, à la radio, à la télé, dans les restaurants, dans les bars. Et je trouve que tout ce bruit, ça finit par fabriquer beaucoup de vide.
Cours, camarade, le vieux monde est derrière toi. Les barricades, les voltigeurs et puis quoi? Cours, camarade, les épaves de pavés, les bousculades, les cocktails et puis après. Cours, camarade, le vieux monde sent la poussière. Dernière ruade, et on l'enterre à Nanterre. Cours, camarade, redis-nous ton beau discours sur ton estrade. Le poing levé, le cœur lourd. Camarade, le vieux monde reprend son souffle. Quelques décades, et tu rentres dans ses pantoufles. Cours, camarade, tes affiches et tes slogans, comme tu les brades pour vendre des brosses à dents. Cours, camarade, le vieux monde t'a rattrapé. Il est malade, tout prêt à agoniser. Cours, camarade, comme tu en crèves avec lui. T'as des bandades comme on en crève aujourd'hui.
Alex Baupin, qui est venu nous voir d'ailleurs dans Estivalitude le 12 juillet, c'était Cours Camarade, une programmation barricade, amour perdu, désillusion de Thierry Dupin.
Vous avez dit.
Ah non, vous l'avez dit.
De quoi? Qu'est-ce que vous avez dit?
Pourquoi vous ne l'avez pas dit plus tôt?
Je pense que tout est foi. Pour moi, c'est une notion qui dépasse largement la religion. Donc de toute façon, j'ai foi en beaucoup de choses. Mais je ne suis pas croyant, je ne crois pas en un dieu.
La question de la foi, vous voyez, c'est très curieux, c'est Cédric Kahn qui dit ça, je trouve que c'est très proche de ce que vous pourriez dire, Laurence Lebécourt.
Ouais. C'est dans quoi ça?
C'était dans quoi ça?
C'était une interview à propos de la prière, j'imagine.
C'était dans le nouveau rendez-vous de Laurent Goumard, c'était sur France Inter, une autre émission de France Inter à laquelle j'ai le plaisir de participer le reste de l'année. Et vous avez dit aussi, la beauté de la nature me fait croire en Dieu, vous êtes d'accord?
Complètement.
Oui. Alors, il faut dire, vous l'avez vu, je crois, Laurence Lebécourt, mais que dans votre filmographie, Cédric, il y a une œuvre qui explore les voies de la spiritualité, c'est La Prière. La Prière, film sorti en 2018. J'aimerais bien qu'on en écoute la bande-annonce.
Tu sais comment marche la maison? On t'a expliqué. Ici, les règles sont dures, c'est strict. Le père François nous a dit que tu avais fait une overdose. T'inquiète pas. Personne ne te juge ici. Il n'y aura rien pour t'aider. Pas de médicaments, pas d'alcool, pas de cigarettes. Pas de filles non plus. Elles vivent ailleurs, dans une autre maison. Toute ton énergie doit être consacrée à la prière et au travail. Tu ne seras jamais seul. Il y aura un garçon avec toi. On l'appelle l'ange gardien. Je sais que c'est difficile pour toi.
Arrête de me faire chier avec tes phrases!
Arrête, on va vite! Qu'est-ce que tu vas faire? C'est quoi ta chérie?
Salut, t'étais là-haut chez les Tox?
Les anciens Tox.
T'as craqué? Si j'étais toi, je retournerais là-haut.
Je me colle une balle si je retourne.
T'es devenu croyant?
Tu es heureux ici, vraiment?
Oui, je suis heureux.
Alors, il y a un livre de Stefan Zweig qui s'appelle « La guérison par l'esprit ». Mais vous, c'est dans votre film, « La prière », c'est « La guérison par la prière ». C'est vrai, ça, ou c'est totalement inventé?
Non, je me suis inspiré d'une communauté qui existe.
D'une communauté dans laquelle on prend des toxicomanes et on les soigne par la prière.
Voilà.
Et ça marche?
Plus ou moins, comme toutes les thérapies, quoi.
Qu'est-ce qui vous a poussé à
j'ai l'impression d'être un an en arrière.
Je suis désolé,
la promo du film.
Non, ça m'intéresse parce que c'est un lien avec, c'est en lien avec Laurence Tobécourt.
Ah, c'est ça, justement, le mystère de la foi. C'est vraiment, je suis parti des témoignages de ces garçons qui étaient dans cette communauté et c'est incroyable parce qu'entre leur enfance, qui est toujours des enfances très compliquées, qui les a amenés à la drogue, qui sont aussi des histoires très dramatiques, et puis tout à coup cette rencontre avec Dieu, parce que chacun m'a raconté sa rencontre avec Dieu. C'était quand même des parcours incroyables et de toute façon qui ne sont que des parcours dédiés à la vie en fait. Tout ça n'est qu'un mouvement vers la vie.
Cédric, vous n'avez pas envie de faire tourner Laurence Tobécourt? Vous savez qu'elle elle voulait faire du théâtre au départ.
Vous avez un physique d'actrice.
J'ai fait un an de théâtre, oui, mais j'étais tellement intimidée que je tombais dans les pommes.
Mais souvent, les gens timides font des bons acteurs.
Ah, c'est les meilleurs acteurs, ça.
Et les gens exubérants peuvent perdre tous leurs moyens.
Évidemment,
face à la caméra.
Évidemment. Alors, Cédric Kahn, vous avez dit, je rêve de jouer avec Polanski. Alors, vous avez dit ça. Pour moi, c'est le plus grand cinéaste, oui.
J'ai dit que c'est le
plus grand cinéaste. Vous diriez ça à tout le monde, c'était.
Pour moi, c'est le plus grand cinéaste vivant, ouais. Donc, c'est vrai que j'adorerais faire un.
Pourtant, il est très décrié aujourd'hui, Polanski.
Oui, mais ça n'a pas de rapport avec l'œuvre et l'artiste. Et puis, en plus, pour ce qui est des affaires privées, on n'a toujours qu'une part de la vérité. Enfin, moi, j'adore les livres de Céline. Enfin, voilà, j'ai jamais regardé l'œuvre d'un artiste au regard de sa vie personnelle.
Laurence, vous avez fait une déclaration, Laurence Tobécourt, dans la presse, qui m'a beaucoup surpris. Vous avez je ne sais pas ce que vous aviez ce jour-là. Vous avez dit ma devise, c'est sex, God and rock and roll. Ah. Vraiment.
Je vais la traduire
en français.
Je vais la traduire dans ma langue, si je puis dire. La sexualité comme prière et comme voie initiatique vers la lumière.
Ah oui.
God, Dieu dans le sens le divin, non pas un Dieu ou alors
un Dieu personnel.
À la façon dont j'ai beaucoup aimé ça. Je viens de lire un livre de Imre Kertész, écrivain que on croit que j'aime tant, et il dit à un moment donné, Dieu, mon vieil ami, où es-tu? Ah, j'adore ça. Voilà, donc God dans ce sens-là. Et rock and roll, c'est une façon de dire la vie vivante, quoi. Pas les choses où tout est lisse, plat, propre. C'est qu'on y va, quoi. Il faut y aller dans la vie. Et c'est comme ça qu'on sait nager, quoi. Mais il faut se jeter à l'eau, sinon on reste sur le bord et on est mort. Donc voilà, c'est dans ce sens-là. Traduite comme ça. Mais oui, effectivement, il faut la traduction.
Je sais, Laurence, que vous animez des ateliers d'écriture. Alors, je me dis, en deux mots, ça se passe comment d'apprendre à écrire avec Laurence Tobécourt?
Alors, on n'apprend pas, puisque je ne sais pas comment on écrit. Non, c'est vraiment ces ateliers qui me sont très chers et très chers au cœur. Oui. C'est comment, en fait, pour reprendre un titre de Davy, Marie-Madeleine Davy, c'est la connaissance de soi. C'est-à-dire que c'est vraiment des ateliers d'écriture où l'écriture est l'outil pour aller vers la connaissance de soi. Et tous les gens qui viennent, ce sont des gens qui sont en quête et qui ont soif de quelque chose. Et voilà. Et moi, je suis là que pour faire en sorte qu'ils puissent s'abandonner au verbe.
Il y a une phrase de Cédric Kahn que vous avez dite qui m'a interpellé, surpris. Vous avez dit, il est facile d'être d'avant-garde, mais il est difficile de bien raconter une histoire simple. Vous, ce qui vous intéresse, c'est d'aller au fait, de raconter quelque chose. Parce que ce que vous faites dans Fête de famille, c'est ça. Vous racontez tout simplement une souffrance familiale.
Ouais, moi je trouve qu'il y a une vertu à être classique et que c'est pas. Et puis des fois je me demande si le classicisme c'est pas la forme suprême de la modernité. C'est-à-dire qu'effectivement de se mettre au service de ce qu'on raconte.
Tu veux que je te raconte un souvenir ?
Un souvenir, oh oui.
Si vous saviez ce qui m'est arrivé, j'en ai des choses à vous raconter.
Vous savez que notre émission est proche de la fin, puisqu'il est 9h54 sur France Inter. Alors, je vous ai demandé à l'un et à l'autre d'essayer de vous souvenir de votre plus incroyable souvenir de vacances. Et Cédric, je vous ai plongé dans l'affliction, en quelque sorte.
Alors, ah oui, parce que moi,
pourquoi?
Parce que moi, je suis terrorisé par les vacances. Et je suis terrorisé en général par l'injonction au bonheur. C'est-à-dire les samedis soirs, le nouvel an. Enfin, voilà. Quand tout à coup, c'est le moment où il faut être heureux, il faut être bronzé.
Vous n'aimez pas Noël?
Il faut être bronzé. Noël, c'est pas pareil, parce que c'est la famille. Et puis finalement...
La famille, vous, c'est pas votre truc.
C'est pas le bonheur social, Noël. C'est autre chose. Si, la famille, c'est mon truc. Détrompez-vous. Et donc voilà, donc les vacances, tout à coup, il faut forcément rentrer de vacances en racontant qu'on a passé un été formidable. Hein.
Vous n'avez jamais passé des étés épouvantables?
Non, loin s'en faut. Puis même en vieillissant, ça va mieux. Mais ça m'est arrivé de passer des étés à regarder la télé ou à écrire ou à rester reclus chez moi. Quoi.
D'accord. Donc vous, c'est
tout blanc.
Regarder la télé tout blanc, enfermé chez vous. Laurence Nebécourt, vous, votre été, c'est un été d'isolement que vous avez passé à Aix-en-Provence.
Oui, il y a très longtemps, en fait, parce que c'est difficile de trouver un été. En effet, moi, je n'aime pas les vacances. J'aime travailler. Donc, c'est le premier où, en fait, j'ai découvert, parce que j'étais partie seule, j'avais 17 ou 18 ans, dans un appartement qu'on m'avait prêté, et je suis restée un mois à écrire. Et en fait, j'ai découvert la merveille de la solitude.
Mais vous étiez dans une ville, pourtant.
Oui, mais à l'époque, je n'avais pas autant conscience à quel point j'aimais la nature. Mais non, c'était... J'ai parlé à personne quoi, pendant 3 semaines et je n'ai fait qu'écrire.
Quel bonheur.
Mais exactement, oui. C'est comme ça qu'on peut être au plus près de l'autre.
L'écriture, au départ, pour vous, c'est un refuge. Aujourd'hui, c'est devenu un outil, une voie de salut ou de réalisation spirituelle. Mais au départ, c'était un refuge.
C'était l'espace où c'était possible. En fait, au départ, j'écris ça dans le livre. Longtemps, j'ai cru mettre quelque chose à l'abri de la mort en écrivant. Et puis, j'ai compris que je mettais quelque chose à l'abri de la vie parce que j'étais tellement sensible que tout me trouait, si je puis dire, trop. Et du coup, c'était un espace. C'est l'espace, un espace spirituel, finalement, où vivre. Oui.
Nous aurions pu parler du poète Yazuki, nous aurions pu parler de Virginia Woolf, mais c'est bientôt la fin de l'émission. Merci beaucoup Laurence Nebécourt et Cédric Kahn, vous avez tous deux fait preuve d'une remarquable estivalitude.
Merci.
Laurence Nebécourt, votre livre, Le chagrin des origines, paraît donc le 5 septembre chez Albin Michel. Le 4, ça n'a rien à voir.
Le 4
septembre chez Albin Michel. Cédric Kahn, votre film Fête de famille sort le 4 septembre. Là, pour le coup, je ne me suis pas trompé, vous pouvez réécouter et podcaster cette émission sur le site de France Inter. C'est bien entendu Juliette Medeviel qui réalise Estivalitude. L'émission a été préparée par Saad Merzak et Pierre Goulencourt, avec à la technique aujourd'hui Nicolas Slimani. Notre boutique éphémère réouvre bien entendu dès demain 9h sur France Inter. Je recevrai une romancière Fatou Diom et une chanteuse Kerenan.